Bonjour, merci à Jean-Louis qui a voulu m'inviter à ce colloque. Je suis le dernier, j'essaierai d'être bref, mais il faut seulement me faire des signes et puis ça ira. Alors je vous parlerai du projet de l'hôpital de Venise, sur un point de vue un peu spécial. C'est-à-dire, une réception canonique de l'hôpital de Venise, qui est sûrement un des projet majeur, disons, de la fin de la vie de Le Corbusier, un projet qu'il n'a pas porté à terme. De toute façon, comme dit, même ceux qui l'ont repris, comme dit, se sont arrêtés sur le chemin. Et peut-être c'est même pour la réputation de Le Corbusier, mais pas trop mal, parce qu'il avait quelques aspects complexes. Mais il y a une lecture canonique, je viens de dire, mais il y a aussi peut-être une autre qui la complète et qui la transforme un peu. Et c'est une lecture qui se base surtout à partir de la genèse du projet et des effets d'intertextualité. Intertextualité, il faut pas, c'est pas un mot magique. Simplement, ça veut dire que une lecture intertextuelle considère que chaque œuvre est le montage d'œuvres, de plusieurs œuvres, qu'il n'y a pas une page blanche. Simplement, qu'il y a dans chaque projet, il y a déjà d'autres projets dedans. Et que le problème de la création n'est pas tellement d'inventer ex nihilo quelque chose, mais c'est plutôt, disons, des transformations qu'on impose à une matière qui est déjà là. Et que parfois on a peine même à oublier pour faire autre chose. C'est-à-dire, on est constamment en train de modifier. De modifier ce qu'on a déjà fait comme artiste, ou bien qu'on modifie des choses que d'autres ont fait et qu'on reprend, ou des idées qu'on englobe, qui viennent un peu de partout, et des idées qui peuvent venir, qui sont d'ordre conceptuel, qui sont d'ordre graphique, qui sont d'ordre pictural, qui sont même des effets littéraires. Et naturellement, l'intertextualité considère aussi comme intertexte les collaborateurs, les manuels, les prospectus de fabrication, etc. Ça, c'est un peu... Naturellement, ça semble diminuer l'aspect créatif, et l'architecte peut se sentir de ce concept diminué dans son rôle de créateur. Je pense qu'il y a là une grande illusion sur ce qui est la création. Je peux seulement dire que par rapport au concept qui lui ressemble, celui, disons, de... Comment dire, de prolongement d'une tradition, d'école, ou bien d'imitation, ou d'autres notions, disons, de cet ordre, qui renvoient à quelque chose de précédent, l'intertextualité s'intéresse surtout à ce, disons, que le travail sur le projet, qu'est-ce qu'il fait de ce dont il se sert, et c'est où il arrive. Bon, dans l'explication, je serai peut-être un peu plus évident. Alors, ça, c'est la présentation à Venise du projet pour l'hôpital de Venise. Et on va autour de Le Corbusier, mais aussi Ottolenghi, qui était l'administrateur chef de l'hôpital, et puis à côté encore le chef de la clinique, enfin le grand médecin, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on peut dire qu'il y a un problème avec l'objet, comme le décrire dans les journaux. Il y a Paolo Rizzo, qui est un journaliste remarquable, très partisan du projet, qui le présente sur le Gazzettino en avril de 65, et il dit, plus ou moins dans un long texte, « L'hôpital s'avance, à rien, en suspension, il laisse entrevoir derrière lui la ville ancienne. Il semble incliner la tête pour ne pas déranger les églises et les campaniles dont on aperçoit les silhouettes loin. Et puis encore, il se sert d'expressions comme « c'est des formes qui se prolongent et qui se rétractent ». Et puis encore, une agrégation de cellules nouvelles, un édifice qui s'avance à rien en suspension, avec des faces plastiquement intactes, sans fenêtres ni portes. J'imagine bien qu'est-ce que le lecteur du Gazzettino a pu comprendre à partir de cette photo et l'objet. Ça, c'est un objet curieux, très curieux. Alors, si on vient, disons, au mérite majeur de cet objet, on peut se dire, évidemment, c'est ce qu'on a été retenu, qu'il s'intègre dans la ville de Venise. Pourquoi ? Parce qu'on admet le fait qu'il construit sur l'eau, et construire sur l'eau, c'est une caractéristique évidente de Venise. Il tient le gabarit de Venise. Et alors, on peut dire que l'auteur de 13 mètres à peu près choisi correspond, disons, à cette insertion dans la ville. Et puis, c'est une structure tentaculaire qui se développe par un système de composition très intéressant qui est justement, comment dire, un type d'expansion qui est proliférante comme la ville, avec des petits modules qui pourraient être, disons, les petites maisons de Venise, qui s'expandent dans différentes directions. Et on voit encore que, comme sont placés le chemin intérieur de l'hôpital, on peut faire encore une comparaison que les architectes ont faite avec Venise, en disant il y a des campielli, et puis il y a des petites ruelles, c'est-à-dire toutes des notions qui appartiennent à Venise. Et dans ce sens, on a considéré ce projet remarquable comme acte, disons, comme hommage rendu à la ville. Ici encore une photo de la maquette. Alors, il faut dire que le projet a eu plusieurs phases, mais une, c'est le rendu en 64, vers le septembre 64, et puis le rendu d'avril 75. Et puis, bon, c'est fini. Alors ici, encore, disons, quelques plans, et on voit très bien, on va naturellement, il faut mettre en bas, en partie l'hôpital sur l'eau, mais c'est là aussi qu'il y a les entrées pour arriver aux ambulances, pour les urgences, des entrées pour les visiteurs, les fournisseurs, etc. Puis il y a toute une série de chemins qui partent, n'est-ce pas, qui vont atteindre un étage intermédiaire qui peut être de plus différents hauteurs que réservés, disons, surtout les salles d'opération, les chambres pour les urgences, ou pour les gens qui sont, comment dire, bon, on s'en sortira. Et puis, naturellement, en haut, et ça, c'est la nouveauté de cet hôpital, c'est des chambrettes, qu'on verra dans les plans, qui n'ont pas de fenêtres. Et c'est pour ça qu'on peut parler, il n'y a pas d'ouverture, comme le dit le journaliste, parce que ces chambres prennent la lumière par une prise en hauteur. Et ça, c'est une esquisse que Le Corbusier, parmi les peu d'esquisses qu'il a effectivement de son projet, beaucoup ils sont finis où, ça on se pose la question, l'idée de ce bâtiment très bas, sur l'eau en partie, une partie sur terre ferme, là il y a les grandes discussions si c'est bien ou mal, et puis naturellement un volume très bas qui fait très bas, que parfois, là où il y a les chambres seulement, il est de 2,70 mètres à peu près. Et pour le reste, dans ce volume, il y a en bas encore l'administration, un peu, puis il y a les salles d'opération, et puis alors les chambres. Grosso modo, ça suffit, disons, de dire ça pour expliquer un peu la suite de mon propos. Or, aggiungerlo forse. Ah, insomma, bravo, grazie. Stupendo, perfetto. Voilà. Alors. Or, ce projet, naturellement, suscite beaucoup de discussions, parce qu'il semble très loin de ce à quoi nous avait habitué Le Corbusier. Le Corbusier a 72 ans, et on sait que parmi ses employés, il y a des gens qui ont beaucoup d'intérêt aux travaux du Tim Ten. Or, ce projet, comme vous l'avez vu, disons, peut-être que je peux encore... Oui, ce projet, voilà. Or, ce projet, il a quelque chose d'assez curieux, n'est-ce pas? C'est... Voilà, ouais, bon, j'avance déjà trop, tant pis. Et alors, les gens s'interrogent sur la nature de ce bâtiment et aussi d'où ça vient. Et on pense... Oui, c'est... Maman, bon, encore une... Oui, parfait. Ici, apparaît. Ici, parfait, oui. Vous avez compris que je suis quelqu'un du XXe siècle qui n'a pas bougé, et bon... Alors, il se pose la question d'où vient cette architecture qui, au fond, produit un objet très plat qui croît par, justement, par une structure proliférante qui n'a pas de bord, ou que le bord peut être casuel, qui peut s'accroître tout le temps, qui est parcouru par toute une série de chemins qui passent à travers, comme on l'a vu dans l'image avant, je ne cours pas des risques, mais qui court et qui relie les chambres, les blocs de chambres, qui relie différents étages. Tout ça donc, fait faire des réflexions, d'autant plus qu'on sait que dans le bureau, il y a deux jeunes, c'est Guglielmo Julien de la Fuente et José Rubreri, qui sont des très bons architectes, qui sont tous les deux liés au Team Ten et que ce bâtiment ressemble beaucoup à ce que le Team Ten produisait justement dans ces années. Et c'est même très difficile à établir quand un projet a apparu sur la scène architecturale, etc. D'autant plus que des protagonistes du Team Ten, comme par exemple Candilis, Josic Wuz, en particulier Wuz, qui est un peu le théorique de ce groupe, n'est-ce pas, envoient des plans de leur projet à Le Corbusier, ils veulent avoir un avis, ils diront même, ils feront croire un peu qu'au fond, Le Corbusier peut-être a pris quelque chose du Team Ten. Or, ce qui est intéressant, c'est que justement, en 63, le jeune Julien est invité par les gens du Team Ten, une espèce de réunion qui était un peu hors de Paris, pour parler et pour participer aux discussions de ce groupe. Il lui dira, Le Corbusier, je veux aller voir ce qu'ils font, vous êtes d'accord, je vous laisse, vous n'êtes rien contraire. Et Le Corbusier dira tout de suite, non, alors, surtout pas, on ne va pas chez enfin, ces gens-là dont on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils ont en tête. Et une semaine après, il fait venir Julien dans le bureau et dit, mais peut-être que ce n'était pas une mauvaise idée, c'est mieux que vous allez espionner pour voir qu'est-ce qu'ils font. En tout cas, il ira à cette fameuse réunion et les résultats de cette présence seront un long texte qu'il écrit, qu'il résume un peu les discussions dans la revue Le Carré Bleu, qui est une revue tenue justement par Candilis, par d'autres personnes, donc qui tous figurent un peu dans le rayonnement du Team Ten en France. C'est un journal un peu improvisé, fait un peu causé à la main, à la franquette. Il y a quand même José Ubreri qui s'occupe justement de ce numéro qui tient compte de ces discussions. Et ici, dans la couverture, ce que vous voyez, c'est un projet qui a été présenté avec beaucoup de succès à ce colloque par Aldo Van Eyck. C'est un projet d'un village d'enfants avec les neuf villages de neuf langues. Il faudrait étudier en détail ce projet pour voir qu'il est composé, comme on dit, de tous des noyaux, des structures qui se combinent l'une dans l'autre, à grappe, qui ont un contour tout à fait arbitraire, si on veut, mais qui est dicté par les dimensions et les modules des différentes cellules qui s'agrègent premièrement autour d'une petite cour et puis elles s'agrègent encore entre elles. C'est-à-dire qu'il y a derrière toute une géométrie qui permet, disons, de produire un objet en croissance illimitée, si on veut. Tout cela, naturellement, est fait pour séduire, en particulier, aussi José, naturellement, mais en particulier, Julien. Et naturellement, on peut presque dire que le Team Ten s'invite à la rue de Sèvres. Ça, on le savait, et on le savait à tel point que plus tard, un collaborateur de Wuz dira même, au fond, l'hôpital de Venise, c'est un projet Team Ten. À tel point, comme si Le Corbusier était, parce qu'on peut exactorer, de sa stratégie projectuelle, de ses contenus, de ce projet. Or, si on reconstitue un peu l'histoire du projet dans la mesure qu'on a quelques éléments, eh bien, on se rend compte tout de suite de choses assez intéressantes. Sur la gauche, c'est la première chose auquel Ubreri et aussi Julien ont pensé, Quand Le Corbusier a expliqué un peu ses intentions qui étaient claires, évidemment, parce qu'il les avait déjà exprimées quand il était à Venise une première fois, quand on voulait l'engager pour une espèce de colloque autour de quoi faire avec l'hôpital de Venise, c'est-à-dire en 63. Et là, c'est assez drôle, disons, il sera baladé un peu partout à Venise avec un motoscaf, par Ottolenghi, mais surtout par Mazzariol, professeur à l'UAV, qui est un enthousiaste de Le Corbusier. Et ce moment, Le Corbusier dit, il faudrait bâtir sans bâtir, et en tout cas, bâtir bas. Et tous ont dit cette phrase, c'est le moment où Le Corbusier a eu l'illumination. C'est toujours magnifique de penser que les artistes sont comme ça. Ils voient un truc et puis ils sont illuminés. C'est un événement qui inhumain presque, qui dépasse l'humain. En réalité, il avait déjà écrit en 62 au maire de Venise, quand on l'a voulu inviter déjà pour un colloque, il dit, mon Dieu, surtout ne touchez pas à Venise. C'est pas seulement qu'on peut ne pas bâtir en hauteur, il faudrait pouvoir bâtir sans bâtir, etc., comme il le dira sur ce bateau. Mais en réalité, en 62, en écrivant au maire Giovanni Favaretto Fisca, il dit, dans une demande que lui est faite d'avoir un message dans l'intérêt de Venise, il répond, vous n'avez pas le droit de troubler le gabarit de Venise. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir la porte à un désordre architectural urbanistique américain. Et puis plus loin, monsieur le maire, je pourrais vous en écrire long, mais je suis angoissé en pensant que Venise peut, par l'invasion de la démesure, devenir un atroce marécage semblable à toutes les villes de l'Amérique du Nord, etc. Alors vous comprenez que Le Corbusier a des idées déjà assez arrêtées qu'il explique à ses collaborateurs et ils trouveront par conséquence. Alors la première chose qui sort des tiroirs, et là ça devient intéressant, c'est ce projet qui est sur la droite, qui est un projet pour un campus universitaire, en tout cas pour des maisons d'étudiants. On n'en sait pas trop, évidemment il y a quelques éléments en plus de ce que je montre, mais ce qui est intéressant c'est toutes des maisons qui sont l'une collée à l'autre, n'est-ce pas? Ils ont une petite courelle verte devant et un escalier qui monte un peu plus haut. Ici, à nous, il y a une petite, toute petite terrasse. En effet, ce qu'ils voient de là, notamment, ils voient le toit de la maison d'avant, le ciel, et pas beaucoup plus. Ça, c'est l'idée. Ils pensent tout de suite à un bâtiment à nappe. Or, un bâtiment à nappe, c'est aussi un bâtiment, disons, typique de Tim Ten. C'est pour ça que, peut-être, quand il sort ce projet, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière de mener Le Corbusier vers un certain... l'orienter. Et ça, c'est sûrement vrai, parce que quand Julien... dans une interview, parlera de ce projet, mais pas seulement de comment on travaillait dans l'atelier, comme lui, il travaillait avec Corbu, il dit, moi, je continuais à sortir des choses du bureau et lui les présenter. Et puis, je faisais des variantes. Et puis, quand ça n'allait pas bien, j'en faisais une autre. Parce que l'atelier était une boîte de Pandore. C'est-à-dire, c'est incroyable, dans les livres, dans les morceaux de papier, des esquisses, dans les revues qu'il y avait, tout ce qu'il y avait, eh bien, on pouvait inventer 10 000 choses. Et les projets étaient faits comme ça, en mêlant plein d'idées. Au fond, à sa façon, Julien expliquait que l'architecture est un intertexte. Et c'est ce qui se passe. Alors là, vous avez naturellement sur la droite les chambres avec cette fameuse prise de lumière. Bon, grande discussion si c'est bien ou c'est mal. Le Corbusier, peut-être, ce n'était pas si grave pour lui, en tout cas, vu de son point de vue, pour une simple raison qu'il avait déjà été une fois opéré, il a été soigné pour la rétine qui est tombée de l'œil gauche ou droite qui est tombée, et il a passé 2 semaines, comme c'était ce qu'on soignait au début du siècle, une telle maladie, dans le noir. Et puis, il a eu un accident terrible à Saint-Tropez, il était dans l'eau, un bateau lui est passé dessus, disons, il a risqué la vie, en tout cas, ils ont dû le réparer pendant longtemps à l'hôpital. Et il n'a jamais senti, mal, disons, dans cet isolement total. Et les importants, c'est la lumière, une lumière constante, naturelle. Mais ce n'est pas la vue, etc. C'est plutôt voir des gens autour de vous qui vous secouent et tout ça. Très intéressant, tout ça, on le trouvera dans l'idée de l'hôpital de Nice. Or, maintenant, et puis, il y a cette composition par cellules et par structures proliférantes. Or, ça, c'est très important parce qu'il y a justement quelque chose qui est advenu dans l'œuvre de Le Corbusier, auquel a fait allusion déjà Tim Benton, c'est que Le Corbusier explore à travers ces quatre types de compositions qui vont vers le prisme pur, n'est-ce pas, avec dans la ville Steinemonzi, avec le projet modeste mais très significatif pour Carthage, et puis naturellement pour la ville à Savoie. Or, ce qui est très intéressant, ces projets sont liés à toute une stratégie projectuelle. C'est donner un volume, dans ce volume, ranger le plan d'une maison. On a un programme, on sait plus ou moins la surface qu'on peut utiliser, et là-dedans, en manipulant avec les parois qu'on peut placer comme on veut, grâce à la structure des pilotis, grâce à la grille du domino, n'est-ce pas ? Grâce à ça, on peut arranger comme on veut les chambres. C'est pour ça qu'il dira, disons, la ville de Savoie, très généreux, pourquoi ? Parce que Il a prévu des surfaces larges, n'est-ce pas, vides, qui sont prises dans le volume pur. Il a une idée d'une architecture extérieure qui doit être cubique et l'idée d'un espace intérieur qui s'adapte et qui s'arrange, n'est-ce pas, et qui crée des espaces résiduels de grand intérêt, comme naturellement dans le cas de la ville de Savoie, etc. Et dans le projet à Carthago, ça c'est encore plus intéressant, le client refuse son projet, et alors il construit le volume, n'est-ce pas, avec la structure dehors. Là, pour une fois, il y a toute la structure domino, peut-être pas exemplaire que ça, et puis dedans, il recoupe les parties espace intérieur, et le reste fait de l'ombre sur le volume. Et la villa, Stein, est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que là, il dit très difficile, parce que naturellement, il a essayé d'avoir aucun gaspillage d'espace. Et si on regarde l'histoire du projet, on voit tous les arrangements avec les parois qui se tordent, qui créent plein de ce que lui appellera des enjambements. Et ça, naturellement, fantastique, parce que ça désigne parfaitement la figure de la rhétorique littéraire de l'enjambement. Eh bien, tout ça pour rester dans le prisme pur. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive à la villa de Mandro, c'est un renversement total de stratégie, c'est-à-dire on n'a plus un système, comme dire, subdivisif, c'est-à-dire on se place dans un volume et là-dedans, on articule le logement, mais un système par adjonction, c'est-à-dire, disons, proliférant. Et ce système proliférant, il adopte, dans le premier projet, il adopte, c'est peut-être le fait essentiel, à côté aussi de la récupération d'une autre matérialité, du projet pour le Pradé. Parce que là, après avoir essayé autre chose, comme l'a montré Tim, qu'est-ce qu'il fait? Il construit cette maison en moellon, avec ses joints très soignés au début, puis qui ont créé pas mal de problèmes. Il faut dire encore que là-dessus, il y a toutes différentes théories pourquoi il y a de l'eau qui s'est formée dans la maison. Je vous épargne ça. Et puis, il y a une série d'esquisses, n'est-ce pas, qui montrent comme Le Corbusier joue avec des unités carrées. Et il les déplace une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois, il y en a deux détachés pour les autres, et ici, une fois, ils sont mis parallèlement, une fois, ils sont verticalement. Et ici, il y en a plus aux mains. C'est-à-dire, il a des carrés qui pensent qu'ils sont dans une unité chambre ou bien cuisine avec service et tout, et ils les combinent par tous les moyens. C'est-à-dire que ce principe, disons, en expansion, il est déjà là,
Il est déjà là
dans ce moment. Alors, moi aussi, je dis, le Corbusier, qu'on dit, a préparé. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout que c'est... Que la, là, je contraste un peu avec peut-être les conclusions de Tim. C'est pas un cul-de-sac. C'est-à-dire, il a essayé les potentialités d'un système de composition par subdivision. Par subdivisif. Et maintenant, il essaye un autre système qu'il a repéré dans la structure rurale, comme dans ces maisons bretonnes ici, où il ne faut pas oublier que ces baraques-là, si on les regarde bien, c'est des volumes longitudinaux qui sont mis côté à côté, et il dira, et puis on rajoute ça, et on rajoute ça. C'est-à-dire une structure en croissance. C'est trop bien. Ouh, bon. Ici, vous avez, comme dire, le projet Cercel. Bon, je place le reste. En ce moment, dans les revues partout, Rudowski est le premier, parle naturellement des ventes, des mérites de cette architecture faite de telle façon. Or, on comprend bien que Le Corbusier n'a pas besoin de Tim Tam pour penser à ça. Mais il y a encore mieux. Ici, vous avez, comment dire, ça, c'est le projet qui a été montré à Le Corbusier, le projet pour Francfort de Candilis Josich Woods. Et il vous voit donc cette trame de parcours dans lequel sont insérées des vides et puis naturellement des commerces, des bureaux, etc. Cette trame, elle est naturellement en hauteur, n'est-ce pas, une certaine hauteur, on peut y accéder, le trafic passe dessous, et ça peut vraiment comme un tapis, elle peut s'expandre comme on veut. On voit bien, ça c'est très proche du projet de Venise. Mais, malheur peut-être au Tim Tam, cette structure-là, elle était déjà, comment dire, et quand le Corbusier, le bureau la voit, c'est... Et comme dire, ça n'étonne pas du tout. Et il y aura Julien qui dit, effectivement, quand on a vu ça, c'était pas mal, mais Le Corbusier n'a pas été surpris parce que, et tout de suite, il a sorti les projets qui étaient déjà dans le bureau, qui avaient ça. Plus encore, en ce moment, dans les mêmes années, en 60, 62, 64, Le Corbusier travaille un projet pour les bureaux d'Olivetti, pour le centre de calcul d'Olivetti à Rome. Et là, il y a aussi, comment dire, on verra tout de suite, il y a aussi, comment dire, une grande structure horizontale basse et au-dessus, on entre dans cette structure par le haut, parce que il considère que c'est un très bon dispositif. À nous, c'est le personnel qui arrive, qui vient de la colline avec les bicyclettes, etc. La fabrique est plutôt dans une espèce de talus. Cette usine se trouve à Montauban. Mais, et le fournisseur, par contre, arrive de bas et livre les matériaux de l'usine. Bon, ça, c'est un projet de 1940. C'est-à-dire que ce que le Tim Tam fera, comme ici, de différencier les parcours et les moyens sur différents niveaux, ce projet remarquable pour Londres, pour Berlin de Smithson, n'est-ce pas? Là, on voit la ville qui est en bas, la ville réelle, encore ce qui en reste d'après la guerre, puis il y a une structure surlevée, n'est-ce pas, pour les piétons, et puis là-dedans, ça construit de nouveaux bâtiments reliés à ces structures. C'est-à-dire, ceux qui feront dans cette variante, les, comment dire, les Candilis Woods et Josich Woods. Mais ça, disons, est déjà là, déjà en 1940, avec le projet de cette usine verte, et on le retrouve dans le projet qui prend le départ dans les années 1960, mais les premières esquisses sont 62 à peu près, ici, qui est le projet pour le centre d'Olivetti à Rome. Alors, ici, c'est une première esquisse, il y a là une rampe qui monte. Et puis, c'est une espèce de paquet, de surface informe. Informe. Quand on regarde la maquette, il faut oublier ces éléments du bureau qui vont s'enclencher dessus. Il faut seulement penser ce qui est dessous et regarder encore cette curieuse collimation qui est là. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, pour revenir encore à la similarité, Ça, c'est des planches, c'est des maquettes, des dessins. Il y en a une quantité énorme élaborée par Julien. Ça, c'est le projet de Venise. Le plus intéressant vient après. C'est que pour Ro, vous avez au rez-de-chaussée, sur un grand hauteur, tout ça, c'est-à-dire cette structure des éléments carrés, de, je pense, 5 mètres par côté, avec une distribution qui sera la même qu'on trouve dans l'hôpital de Venise, n'est-ce pas, pour les différents espaces de travail, là, n'est-ce pas. Et ici, en haut, il y a cette rampe qui part là, qui arrive là-haut, et qui va atteindre quoi? Des espaces de services, douches, vestiaires et autres, qui sont sur le toit, qu'on peut atteindre en sortant, dans lequel on peut sortir même sur le toit, n'est-ce pas? Et tout ça, naturellement, ça c'est sûrement du Julien, c'est peut-être même du, comment dire, d'Aubrerie. Ça, je doute fortement, il n'y a aucun dessin qui fait penser que Le Corbusier a fait ça. Mais le concept, par contre, est là. C'est tout l'usine en bas, en haut, la distribution, et c'est très clair aussi pourquoi, dans une industrie, on ne veut pas entrer tout du même côté, toute la bande, n'est-ce pas? Ça crée une dysfonction. L'usine doit être rationnelle en elle-même, fonctionner en tant qu'usine, et plutôt, on arrive du haut parce qu'on peut choisir où on descend. Et on est libre de descendre et de créer même plusieurs descentes si on pense que c'est nécessaire. Oui. Bon, monsieur, une image seulement. Ça, c'est l'hôpital en bas, il y a l'hôpital de Venise, et en haut, disons, l'usine de Ro pour les vêtements. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Le Corbusier? Il a simplement, comme une omelette, renversé le projet de Venise, le projet de Ro pour faire Venise. Or, ça, c'est une intuition géniale, mais ça change un peu la façon d'appréhender le travail de Le Corbusier, je crois. Et ce qui est intéressant, on voit tous les intertextes. Vous voyez, le tintin, d'une certaine façon. Surtout, ces deux employés qui sont brillants. Et puis, naturellement, ce travail sur tout ce que le bureau, que son bureau a déjà comme matériel à disposition pendant le temps. Les intertextes sont quoi? C'est surtout son matériau. Dans d'autres cas, on pourra montrer que les intertextes sont la peinture et autre chose. Bon, j'ai fait un peu long. J'espère qu'on me pardonne.